Bonjour à toutes et à tous, Jean Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le Conseil de sécurité fait le point sur la situation au Yémen, au moment où deux sites pétroliers en Arabie Saoudite ont été attaqués. Des experts des Nations Unies dénoncent les violences sexuelles au Soudan du Sud. Guira FM, la radio de la paix en République centrafricaine, soutenue par l'ONU, fête son 5e anniversaire. Et en dossier, la présidente de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'achève aujourd'hui, Maria Fernanda Espinosa, fait le bilan de son mandat et des résultats qu'elle a obtenus. Le secrétaire général de l'ONU a condamné les attaques perpétrées samedi contre deux sites pétroliers dans l'est de l'Arabie Saoudite. Antonio Guterres et son envoyé spécial pour le Yémen, Martin Griffiths, ont appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à prévenir toute escalade dont les répercussions pourraient se faire ressentir au-delà de la région. Le Conseil de sécurité a entendu lundi matin Martin Griffiths et le chef de l'humanitaire de l'ONU, Mark Lowcock, sur la situation au Yémen. Pascal Sim nous en dit plus.
Au Yémen, il n'y a pas de temps à perdre. C'est le message qu'a de nouveau rappelé Martin Griffiths aux membres du Conseil de sécurité. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen a souligné que la recherche d'une solution politique au conflit est d'autant plus urgente aujourd'hui après les attaques perpétrées samedi contre deux sites pétroliers en Arabie Saoudite. On ne sait pas très bien qui est derrière les attaques, mais le fait que les Houthis les aient revendiquées est déjà assez grave, a dit Martin Griffiths. Pour l'envoyé spécial, ces attaques montrent que le Yémen semble s'éloigner encore plus de la paix. L'environnement dans lequel opèrent les acteurs humanitaires au Yémen n'a peut-être jamais été aussi pire qu'aujourd'hui, a pour sa part déclaré Mark Lowcock. La grande majorité des incidents d'accès humanitaire étaient dus aux restrictions imposées par les Houthis, dont les nouvelles règles contreviennent aux principes humanitaires, a-t-il déploré, tout en alertant sur les retards du gouvernement à approuver les projets des ONG. Le chef de l'humanitaire de l'ONU a également réaffirmé l'importance d'un financement dans les temps de l'aide internationale dont dépendent des millions de personnes au Yémen.
La Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme au Soudan du Sud a dénoncé lundi la poursuite des violences sexuelles dans ce pays d'Afrique de l'Est et la lenteur dans la mise en place d'un tribunal spécial chargé de poursuivre ces violences. Selon Yasmine Souka, présidente de cette commission, les viols n'ont pas cessé. On l'écoute.
Certains commentateurs avancent que les violences politiques intenses du passé ont disparu et que le Soudan du Sud connaît des violences intercommunales ou des vols de bétail. La réalité est beaucoup plus complexe. Les éleveurs qui, de par leur histoire, ont été intégrés dans les groupes armés, ne se servent plus de bâtons ou de cannes, mais sont équipés d'AK-47 et de machines lourdes telles que des RPG ou des mitrailleuses. Dans certains cas, ces armes sont fournies par les autorités locales et les politiciens qui se servent des gardiens de troupeaux en tant qu'intermédiaires. Leur motivation pour voler et saisir du cheptel, c'est peut-être aussi de déplacer de façon forcée les autres groupes ethniques, tuer des dirigeants de communautés, enlever des femmes et des enfants tout en incendiant et en pillant les villages et détruisant les réserves alimentaires. Et cela pourrait être plus sinistre à long terme.
Le 14 septembre, Guira FM, la radio de la paix en République centrafricaine, a soufflé ses 5 bougies. Depuis 5 ans, Guira FM soutient le processus de rétablissement de la paix dans le pays, accompagne le mandat de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, et promeut la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. On écoute Manker Ndai, chef de la MINUSCA.
Guira FM, c'est notre radio. Et Guira FM a l'âge de la MINUSCA, pratiquement. Et je pense que c'était très bien vu à l'époque d'accompagner la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA par la communication stratégique à travers la radio et à travers également la direction de la communication de la MINUSCA. Donc je voulais encourager Guira FM à diversifier ses programmes. Parce que c'est une radio qui est très bien écoutée, très bien respectée également, parce que c'est une radio de la paix, une radio pour la promotion de la paix, pour la promotion du dialogue social, pour la promotion du dialogue entre toutes les composantes de la société centrafricaine. Également, c'est une radio de vérité. Je pense que c'est important d'encourager également Guira FM à travailler avec les autres radios, surtout avec la radio nationale centrafricaine. Et nous ferons tout également pour renforcer la couverture médiatique de Guira FM en lui donnant davantage de moyens, faire en sorte que dans tous nos bureaux de terrain, qu'il y ait une station de la radio Guira FM et au-delà, même là où nous ne sommes pas présents comme bureau de terrain, que Guira FM puisse avoir ses émetteurs et mieux diffuser le mandat de la MINUSCA qui parfois n'est pas tellement bien compris. Je pense que Guira FM peut contribuer également à combattre toutes les formes de manipulation et d'intoxication sur ce que fait la MINUSCA au quotidien au service de la protection du civil, au service de la population.
La 73e session de l'Assemblée générale s'achève aujourd'hui. Sa présidente, Maria Fernanda Espinosa, déclare repartir satisfaite d'avoir fait avancer les priorités qu'elle avait établies pour son mandat et d'avoir obtenu des résultats palpables. Pour en savoir plus sur l'expérience de la 4e femme présidente de l'Assemblée générale, Cristina Silveiro l'a reçue dans nos studios. Elle lui a d'abord demandé de revenir sur ses réussites et le plus grand défi au cours de son mandat.
Je dirais la réussite très concrète de cette campagne mondiale contre les plastiques d'usage unique, qui a été une campagne mondiale, mais aussi qui a eu des résultats très concrets à l'ONU, ici à New York, qui n'utilise plus de plastique à usage unique, qui est vraiment un miracle presque après plusieurs années d'essais et d'une responsabilité que nous avions comme État membre. La deuxième question, je dirais, est la question de la parité entre sexes et aussi de la présence très forte des femmes pendant toute l'année. Des femmes au pouvoir, des femmes présentes, faisant partie des grandes discussions, pas seulement sur les thèmes de femmes, mais dans tous les thèmes de l'agenda de l'ONU. J'ai pu organiser pour la première fois la première réunion de femmes chefs d'État et de gouvernement, et pour avoir aussi l'opportunité de parler aux jeunes femmes et encourager les jeunes femmes pour entrer dans le monde de la politique internationale. Ce n'est pas seulement une question de chiffres et de pourcentages, c'est aussi d'apporter de la qualité, de la perspective aux thèmes mondiaux. J'ai beaucoup travaillé sur ça et je suis très fière de dire qu'il y a beaucoup de formes culturelles déjà établies à l'ONU qui ont beaucoup changé. Je suis aussi très fière d'avoir pu mettre sur l'agenda le dialogue mondial sur la question du rôle irremplaçable du système multilatéral et le rôle de l'ONU pour le 21e siècle. Et on a commencé un processus qui est l'anniversaire 75 de l'organisation. L'idée, c'est d'initier un processus de dialogue pendant 2020 et pour nous dire, après 75 ans, quelle est l'ONU dont nous avons besoin, que les peuples demandent, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à la hauteur des besoins du monde et des gens communs. Alors je suis très contente qu'on a pu se mettre d'accord pour initier ce processus qui va avoir des fruits l'année prochaine. J'ai beaucoup travaillé à la question de migration, de réfugiés et des rôles des jeunes. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Et bon, les défis, on ne peut pas être naïf. Nous vivons dans un monde très polarisé, ce qui veut dire que la façon de prise de décision à l'intérieur de l'Assemblée se transforme en quelque chose de plus complexe. C'est un grand défi de mettre les 193 États membres ensemble pour accorder et avoir des consensus sur les thèmes fondamentaux. Et je crois que la prise de décision et la forme de prise de décision à l'Assemblée ont été peut-être le plus grand défi pendant cette année.
Vous mentionnez combien vous appuyez les droits des femmes, l'implication des femmes et la participation des femmes. Qu'avez-vous appris sur l'égalité des sexes et la parité en étant présidente de l'Assemblée générale ?
Bon, ce que j'ai appris, c'est que nous avons beaucoup à faire. Il y a beaucoup de travail. Les chiffres ne sont pas des chiffres qui nous donnent beaucoup d'espoir. 3 de chaque 5 femmes ont été victimes de la violence. 75% des parlementaires au niveau mondial sont encore des hommes. Seulement 21 femmes sont chefs d'État et de gouvernement. La représentation publique et politique des femmes, même, a une tendance à l'inverse. On voit qu'il faut beaucoup travailler à ça. En plus, ce n'est pas seulement la participation des femmes et les chiffres et les pourcentages, mais aussi la question des inégalités et la question de la pauvreté et la question de l'accès à l'éducation de qualité. Tous les chiffres des indicateurs de développement durable sont des chiffres qui sont vraiment visiblement pires pour les femmes et les filles. Alors, il y a beaucoup à faire. Ce que j'ai appris, c'est que l'agenda pour et avec les femmes est peut-être la question la plus importante pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable.
Alors, vous êtes poète. Si vous deviez décrire votre expérience à la tête de l'Assemblée générale en quelques mots, quels mots emploieriez-vous ?
Je dirais beaucoup de travail, passion et amour.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. À retrouver sur notre page internet, nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.